bienvenue à tous, même si ça a déjà été annoncé ce matin. Je vous souhaite effectivement la bienvenue à chacun d'entre vous, afin de pouvoir partager ensemble, on va dire, ce qui m'a interpellé cette semaine. J'ai eu un peu de difficulté au départ à trouver, mais enfin bon, c'est un peu comme à chaque fois. Ça vient au fur et à mesure dans la semaine. Et donc, mon cycle de lecture en ce moment, c'est Ésaïe. J'ai envie de dire c'était Ésaïe, puisque j'ai commencé le premier chapitre et j'ai terminé le dernier qui est au numéro 66. Donc on va parcourir un petit peu ce livre. Alors peut-être pas les 66 chapitres parce que ça va faire un peu long. Mais en tout cas, pas mal de lecture ce matin. Et peut-être un peu moins de mois. Alors le livre d'Ésaïe, on va dire qu'il y a certainement, en tout cas tel que je l'abordais, il y a plus ou moins deux lectures. Une lecture factuelle et une lecture peut-être plutôt prophétique. Souvent on dit, ah, le prophète Ésaïe, il a prophétisé pas mal de choses, très certainement. Mais en tout cas, c'est plutôt sur le côté factuel, sur le côté prophétique, je laisserai d'autres personnes en parler. Je vais rester sur les faits sur lesquels Ésaïe s'attarde dans ses livres. Alors, Ésaïe, qui connaît Ésaïe? Parce que si tout le monde connaît Ésaïe, c'est peut-être pas la peine que je rentre dans le détail. Oui, sur ma gauche, Yves. Ésaïe a vécu à quelle époque? Il y a longtemps. Un certain temps. Alors, Ésaïe, c'est déjà dans l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus-Christ, 700 ans avant. Et pour ceux qui connaissent un peu Ésaïe, qu'est-ce qu'il a bien pu écrire dans ses 66 chapitres? Ouh là 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 là, ça c'est difficile. Ça. Pardon? Des encouragements. Repentez-vous, revenez à Dieu. Une vision de Dieu. Oh. Et il a beaucoup prophétisé. Un cadeau annoncé. Alors c'est quoi ce cadeau? Jésus. Eh bien, je n'ai pas parlé de Jésus. Je vais effectivement rester, on parlera un peu de Jésus quand même sur la fin, parce que j'ai envie de dire, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quand même que Jésus est venu sur terre, il est ressuscité, gloire à lui, gloire à Dieu. Je vais rester sur le côté plutôt effectivement, repentez-vous, et peut-être aussi un petit peu du fond. Alors la vision de Dieu, alors je ne sais pas ce que tu entendais Annelise par vision de Dieu, tu vérifies. Alors qu'est-ce qu'on entend par vision de Dieu? Et j'arrêterai là mes questions. Faut aller au charbon. Ah, je pense qu'on pourrait peut-être faire une relation avec ça tout à l'heure. Donc les lèvres impures, et Dieu est là pour nous guérir. Voilà, donc en fait, Ésaïe, donc c'est un homme déjà. Il a vécu effectivement 700 ans avant Jésus-Christ. Et puis... J'ai repris le terme chaotique, c'est-à-dire qu'il a vécu une période où le peuple de Dieu, donc on va dire le peuple de Dieu, celui qui avait été choisi par Dieu au départ, j'ai une période chaotique que j'ai intitulée une période un peu désespérée. À savoir, effectivement, au travers de ces chapitres, j'ai pu voir, ou en tout cas me remettre en mémoire, le fossé qui existait entre le comportement du peuple de Dieu et puis ce qu'attendait Dieu. Alors ça rejoint un petit peu les idées, changer de comportement. Purifiez-vous avec le charbon, avec autre chose. Et pour reprendre le premier, on va dire les 15 premiers chapitres, enfin pardon, les 15 premiers versets du premier chapitre, les 15 premiers versets du premier chapitre, eh bien, je trouve qu'il pose relativement bien le décor, et ce serait presque un résumé des 66 livres, donc si vous voulez abréger la lecture, restez sur le premier chapitre. Donc les versets 1 à 15 du premier chapitre, « Révélation concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem », Ésaïe, fils d'Amo, l'a reçu du Seigneur à l'époque des rois d'Ozias, Jotham, Ahaz et Ézéchias de Juda. Ciel, écoute, terre, prête attention, c'est le Seigneur qui parle. J'ai élevé des enfants pour en faire des adultes, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne, le maître qui lui donne à manger. Mais Israël ne veut rien savoir. Mon peuple ne comprend rien. Quel malheur, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs, enfants vicieux que vous êtes. Vous avez abandonné le Seigneur, vous avez dédaigné l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Où voulez-vous qu'il vous frappe encore, vous qui persistez dans la révolte ? La tête est couverte de blessures, le cœur tout entier est malade. Des pieds à la tête, plus rien n'est intact. Tout n'est que blessure, trace de coups et plaies ouvertes, que personne n'a nettoyé, ni pansé, ni soigné à l'huile. Votre pays est comme un désert sinistre. Vos villes sont incendiées. Sous vos yeux, des étrangers dévorent les produits de votre sol. Il n'en reste plus rien, comme si Dieu avait infligé ce bouleversement à des dieux étrangers. Seul Sion subsiste comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé quelques rescapés, nous serions comme la ville de Sodome, dans le même état que Gomorre. Vous, dirigeants corrompus, dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur, et vous, peuple perverti, digne de Gomorre, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse de veau. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple ? Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelle lune, de sabbat ou de fête solennelle. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune, vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour me prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Voilà. Donc, presque, on va dire, les 66 livres sont résumés pratiquement dans ce premier chapitre. Cette révolte, le fait que Dieu a averti via le prophète Ésaïe, alerte le peuple sur l'état lamentable de sa relation avec lui. Dieu se présente comme celui qui a élevé des enfants pour en faire des adultes. Il s'est choisi un peuple pour l'aimer, pour le soutenir, pour le faire grandir où ? Dans le droit chemin. Et ce peuple s'est révolté contre lui, ce peuple s'est révolté contre Dieu. Et puis la liste des fautes ou la liste des délits est assez grande. Pour paraphraser, je dirais qu'ils se sont détournés de l'unique vrai Dieu. Ils l'ont délaissé, ils l'ont abandonné. Leurs mains sont pleines de sang, telles des criminels. Et leurs responsables sont comparés aux dirigeants de Sodome et Gomorre. Alors quand on connaît la réputation de Sodome et Gomorre, on ne peut pas dire que ce soit très flatteux. Le jour où vous aurez ça comme qualificatif, je pense que vous pourrez vous remettre en question. Et donc, malgré ce tableau peu reluisant, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire comme tableau, bien ce peuple continue d'offrir des sacrifices et de prier Dieu. Et là, qu'est-ce que Dieu y fait ? Il se bouche les yeux. On pourrait presque dire qu'il se bouche les oreilles, mais voilà. Là, Dieu, il dit stop. Stop un peu à cette mascarade. Dieu, ça m'a fait penser un petit peu à l'image du déluge. Il aurait bien aimé peut-être tout effacer, tout supprimer. Alors, l'image du champ de concombre, je ne sais pas s'il vous a beaucoup parlé, ou de la hutte dans la vigne, mais effectivement, c'est quelques rescapés qui restent là. Et donc, avec quelques rescapés du peuple de Dieu, il va essayer d'en faire un peu quelque chose. Mais en tout cas, à tout ce peuple-là qui a envie de dire, a fait un peu n'importe quoi, continue à un rite, continue des sacrifices. Si on se rappelle le contexte de l'ancienne alliance, la loi, les sacrifices sont de mise, et là c'est Dieu qui dit stop. Alors nous aujourd'hui on fait plus de sacrifices, mais enfin à l'époque c'était quand même de mise. Dieu, il dit stop, plus de sacrifices. Il ne veut même plus entendre les prières. Il ne veut plus écouter ce peuple qui veut suivre Dieu et puis qui le fait pas. Et pourtant, donc, avec effectivement cette image de petite maison au milieu de la vigne, tout n'est pas perdu. Dieu va essayer avec quelques-uns, ou en tout cas, il va essayer de, presque le terme ressuscité, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, de refaire revenir le peuple à lui, ce peuple qui était dos à lui, il va essayer de le rapprocher, de l'appeler, et lui indique cette marche à suivre pour une réconciliation. Si j'ai un peu repris l'image aussi d'un couple, quand effectivement, Dieu d'un côté qui écoute plus ce qui se dit, va-t'en, qui traite les gens un peu de Sodome et Gomorre, j'ai un peu intitulé dans un couple, ce serait un peu une position de non-retour. Là, le divorce, il est pas loin, il est presque un peu, je dirais pas consommé. Et pourtant, Dieu, il dit pas allez-vous-en, il dit plutôt voilà ce qu'il faut faire pour revenir à moi, purifiez-vous et apprenez à faire le bien. Ça n'a pas l'air compliqué comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire purifiez-vous? Purifiez-vous sans faire de sacrifice. À l'époque, c'est un peu bizarre puisque quand on péchait, il fallait quand même aller faire un sacrifice. Et là, il dit je veux plus vos sacrifices, mais purifiez-vous. Et il dit aussi quelque chose qui est un peu plus compréhensible pour nous, en tout cas pour moi. Apprenez à faire le bien. Ça s'apprend, ça. C'est pas inné. Donc purifiez-vous en changeant de comportement. Cessez de faire le mal. Là, ça m'a rappelé, on va dire, le prophète Jean-Baptiste qui, prêchant dans le désert, disait « Repentez-vous, changez de comportement. » Et faire le bien, souvent dans l'Ancien Testament, faire le bien, Dieu aime bien l'efficatif, de pratiquer le droit et la justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire effectivement pratiquer le droit et la justice? Et si on reprend les versets 16 et 17, apprenez à faire le bien, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin et défendez la cause de la veuve. Déjà un joli programme. Donc là on ne parle pas de grands crimes, on parle de faire attention à ceux qui nous sont proches, ceux qui sont dans la détresse. Et donc, comme je disais, le premier chapitre résume un peu l'ensemble des livres, et sur l'ensemble des 65 livres qui suivent, on retrouve un peu cette alternance de reproches de Dieu à son peuple, et le souhait de vouloir le tirer quand même d'affaire, de ne pas l'écraser totalement. Il souhaite le pardonner, il souhaite effectivement que ce peuple change de comportement. Et donc là, je fais un bond du premier chapitre au chapitre 43 et 46, où c'est Dieu qui défend sa cause, un petit peu comme quelqu'un qui serait blessé et qui a envie de montrer un peu qui il est, puisque près d'une quinzaine de fois sur ces trois chapitres, Dieu, via le prophète Ésaïe, va dire qu'il est l'unique vrai Dieu, que personne n'est semblable à lui, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et entre autres, ces fameux passages où Dieu nous met en garde de ne pas se tourner vers des dieux qui sont fabriqués de la main de l'homme, des dieux en bois, des dieux en métal, des dieux en rocher. À un moment donné, et vous parlez un morceau de bois, vous ne trouvez pas ça ridicule? Et donc Dieu se présente comme celui qui crée, et la chose arrive, du Créateur. Entre celui qui avertit, et les choses se produisent, effectivement. Donc Dieu avait prédit la sortie du peuple au niveau du pays d'Égypte, ça s'est produit. Pour les lecteurs d'Ésaïe, il a prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ, ils ne l'ont pas vu, mais ça s'est produit aussi. Et surtout donc, ce Dieu créateur, c'est l'unique Dieu qui peut sauver l'homme. Et là, je vais reprendre les versets 8 à 13 d'Ésaïe 43. Qu'on fasse comparaître ce peuple qui a des yeux, mais ne voit rien, des oreilles, mais n'entend rien. Que les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Dieu veut plaider sa cause. Eh bien, parmi eux, qui peut nous révéler ce qui arrive ou nous informer de ce qui s'est déjà passé? Qu'ils produisent leurs témoins et montrent qu'ils ont raison, que ces témoins les écoutent et qu'ils confirment, c'est exact. C'est Dieu qui parle. Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but, le but de Dieu, mon but est que vous sachiez, que vous croyiez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi, et moi seul. à part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qu'on trouverait chez vous. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins que je suis Dieu, dit le Seigneur, et je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. Chapitre 45. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui, le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonnée et consolidée, il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Il déclare donc ceci, le Seigneur, c'est moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je n'ai pas parlé en cachette dans quelque endroit obscur, je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Moi, le Seigneur, je parle franchement, ce que j'annonce est clair et net. Vous, les survivants des nations, venez et rassemblez-vous. Approchez-vous ensemble. Ceux qui portent leur idole de bois ou adressent une prière à un Dieu qui ne peut les sauver, ceux-là n'ont rien dans la tête. Faites votre déclaration et apportez vos preuves. Tenez même conseil ensemble. Qui a fait savoir depuis longtemps ce qui arrive aujourd'hui? Qui l'a révélé à l'avance? N'est-ce pas moi le Seigneur? À part moi, il n'y a pas de Dieu. Un Dieu loyal, un Dieu qui sauve, il n'y en a pas. Sauf moi. Gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car c'est moi et personne d'autre. Et là, on pourrait continuer, je dirais, pas mal de versets qui suivent, et on va dire, c'est moi le seul Dieu, c'est moi qui sauve, c'est moi l'unique, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Et donc, à la fois pour les interlocuteurs d'Ésaïe et pour nous, effectivement, nous sommes les témoins de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait au niveau de sa création, au niveau de tout son peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, qu'il a libéré de l'oppression de Pharaon, de la venue de Jésus-Christ sur terre, de sa résurrection, de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. J'ai envie de dire, j'espère que vous aussi, vous êtes les témoins vivants. Ça me reviendra tout à l'heure, j'ai juste perdu ton nom. Véronique, merci. De temps en temps, et encore ce matin, donc un témoignage comme quoi vivant, comme quoi Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Voilà, donc pour les interlocuteurs d'Ésaïe, on est les témoins de Dieu, même si effectivement Dieu suffit à lui-même. En tout cas, on est les témoins, à la fois pour ce qu'il a fait, et à la fois pour le bien. Dieu est, c'est pas unique, Dieu qui a créé tout, place au organise, et non droit. Et au début, il cherchait tout ce perdu. Il cherche à rassembler et gérer. Comment suite. Alors, Isaïe, fier de Dieu, tu sais ce qu'il a fait. Nous nous cachons lui, faisons connaître son plan à ceux qui nous entourent. Donc, effectivement, j'indiquais que Dieu rassemble large. Et là, c'est dans Isaïe 56, prendre les 8 premiers versets. Voici ce que déclare le Seigneur : respectez le droit, faites ce qui est juste. Car le salut que j'apporte est proche, il va venir. On verra que je tiens ma promesse. C'est toujours Dieu qui parle. Heureux l'homme qui fait ce que j'ai dit et qui s'y tient fermement, qui respecte avec soin le sabbat et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer. Le Seigneur me met à part, à l'écart de son peuple. Il ne faut pas non plus que l'eunuque se mette à dire « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car voici ce que le Seigneur déclare. Si un eunuque respecte mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel. Rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur le déclare, s'ils respectent avec soin le sabbat, s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je les ferai venir sur ma montagne qui m'est consacrée. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël, le Seigneur Dieu ajoute, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Donc Dieu, effectivement a choisi un peuple au départ, mais en tout cas, tous ceux qui vont choisir d'honorer Dieu, tous ceux qui vont choisir de s'attacher à lui et de s'efforcer de faire le bien, il va les rassembler. Les rassembler, on va dire, autour de lui. Et j'aime bien cette expression, maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples, pour le peu que ces gens-là ont eu envie de suivre Dieu. Et c'est quand même fou, mais j'ai envie de dire, ça me rappelle un peu notre époque. Donc là, on est 2000 ans après Jésus-Christ, 2700 ans après Ésaïe. Mais j'ai noté, l'homme n'a pas conscience de grand-chose à l'époque. Le peuple de Dieu avait vécu pas mal de choses, et pourtant, il tourne le dos à Dieu. Et puis nous, à notre époque, on a connu ce qui s'est passé en Égypte, on a connu ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, et pourtant, on tourne aussi le dos à Dieu. Et donc, heureusement qu'il y a quelques rescapés qui sont attachés à Dieu, et puis qui ont rendu un bon témoignage, qui est arrivé jusqu'à nous, et que Dieu a pu effectivement sauver, que Dieu a pu fortifier. Le temple de Dieu, c'est une maison de prière pour tous les peuples, et comme indiqué, pas seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui veulent honorer Dieu, aimer Dieu, et servir Dieu. Ça fait trois verbes, honorer, aimer, et servir. Donc Dieu rassemble tous ceux qui s'attachent à lui. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que ça fait aussi écho à une remarque qui revient assez souvent dans des échanges avec « Veux-tu être sauvé ?» Ben oui, il suffit de regarder à Dieu, il suffit de regarder à la croix de Jésus. Regardez, le brigand, il a dit « Jésus, la sentence qui t'arrive, elle n'est pas juste, ben, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. » Et pourtant, j'ai envie de dire, les gens de notre époque disent « Moi aussi, je vais faire plein de bêtises, et puis à un moment donné, juste au moment de mourir, j'irai, j'ai envie de suivre Dieu. » Sauf que Dieu, il dit pas tout à fait ça, quoi. Il dit effectivement de faire le bien, mais avant de faire le bien, c'est d'abord de l'honorer, de reconnaître qui il est. Et donc, cette série des chapitres 43 à 46, quand ça reprend à plusieurs reprises, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis là. Vous faites le bien, c'est bien. Alors déjà, vous faites pas le bien, mais même si vous faisiez le bien, reconnaissez que je suis Dieu. Reconnaître son Dieu, c'est l'honorer pour ce qu'il est, à la fois créateur et sauveur. L'honorer Dieu, pourquoi ? Parce qu'il est juste, parce qu'il est droit. L'honorer, c'est aussi accepter que Jésus a payé le prix pour nous, c'était rappelé au travers de la scène, et qu'effectivement, sans cette reconnaissance, c'est du non-respect de Dieu. Il a fait tout ce qu'il fallait pour nous racheter, et si on ne reconnaît pas ce sacrifice, je trouve que c'est un véritable affront qu'on lui fait. Et ensuite, une fois qu'effectivement on reconnaît qui est Dieu, par voie de conséquence, ça devrait être aimer son prochain, pratiquer le droit et la justice. Et là, effectivement, on peut retrouver détacher les liens de la méchanceté, rendre libre l'opprimé, partager son pain avec celui qui a faim, offrir l'hospitalité aux sans-abri, donner un abri à celui qui est nu, bref, faire attention à son prochain. Dans Ésaïe 58, Dieu dénonce la révolte de son peuple. Au verset 3, ils me disent « À quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas ?» Le peuple jeûnait, et pourtant a prié « Dieu, tu ne nous vois pas. À quoi bon nous priver si tu ne remarques pas ?»« Oh, je jeûne, je prie, je fais des sacrifices, et tu es où ?» Et Dieu de répond « Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. » Parce qu'effectivement, ils jeûnaient, mais ils n'étaient pas vraiment dans des conditions. C'était plutôt le rite par obligation pour gagner quelque chose. Au verset 6, « Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager son pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir sa maison aux pauvres et aux déracinés, c'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. » Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Et quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Et un peu plus loin, le Seigneur restera ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra tes forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches et redonne vie aux ruelles de la ville. Alors là, moi, ça m'a rappelé un autre passage, cette fois-ci un peu plus récent, enfin récent, 2000 ans quand même, mais c'est Jésus-Christ qui a repris effectivement tout ça, à savoir tu aimeras ton Dieu, première condition, et ensuite tu aimeras ton prochain. Et on retrouve pratiquement tout ceci. Donner à manger, donner du pain, donner des vêtements, donner un abri, en tout cas faire attention à ceux qui nous entourent. Pour répondre à l'interrogation, j'ai pas fait de mal à mon prochain, oui. Mais t'es-tu intéressé à Dieu ? Non. Ça, c'est mon collègue humaniste. Donc tu vois, t'as déjà raté la première porte. La première porte, c'est d'abord d'honorer Dieu. Et puis après, pour ceux qui connaissent Dieu, qu'est-ce que vous avez fait avec votre prochain ? Rien. Et là, le Seigneur répondra, dehors, je ne vous connais pas. Et par rapport à ça, je vous laisserai relire pour vous, mais je pense que la plupart connaissent, le chapitre 25 de Matthieu. Les 13 premiers versets, c'est la parabole des 10 vierges. Donc, ces personnes-là allaient attendre le marié, remplissent les petites fioles d'huile, et puis ils vont attendre, et puis la nuit est longue, et il n'y a que quelques-unes qui vont arriver jusqu'au bout, parce qu'elles avaient pris des réserves, et puis les autres se sont trouvées devant une porte fermée, et le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. La parabole des talents, ce roi, riche propriétaire qui avait donné des talents à faire fructifier. Les deux premiers avaient fait fructifier de différentes manières, et puis le dernier qui avait tellement peur, il l'a caché dans un coin, et puis il l'a bien restitué après dans le même état. Et ce même propriétaire a dit « dehors ». Voilà, donc j'aime bien les deux facettes de justice et de droit de Dieu, qui effectivement... C'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui est unique, c'est un Dieu qui vient. Ne le prenons pas à la légère, parce qu'effectivement, si on le prend à la légère, c'est dehors, je ne vous connais pas. Par contre, on n'est pas non plus des surhumains. C'est indiqué de s'efforcer de faire le bien, ce qui ne veut pas dire qu'on va toujours réussir. Mais en tout cas, c'est d'avoir cette volonté ou cette discipline de pouvoir effectivement pratiquer le bien autour. Ces deux actions sont indissociables l'une de l'autre. C'est ce qu'indiquait Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, donc pratiquement 3000 ans avant nous. C'est ce que Jésus-Christ a repris. Et c'est ce que d'autres chrétiens annoncent encore aujourd'hui, d'avoir ces deux commandements, d'être les témoins pour Dieu, de l'honorer et de pratiquer le bien. Alors ce que j'apprécie aussi dans la lecture d'Ésaïe, c'est justement ce tout, la parole de Dieu, qui est unique entre le premier chapitre de l'Ancien Testament et le dernier chapitre de l'Apocalypse. Ce Dieu s'intéresse à nous, ce Dieu nous parle, il nous parle de droiture, de justice. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sanctionne. Il tend la main pour tous ceux qui veulent prendre sa main. Et il dit « Viens, et à part moi, c'est le vide, c'est le néant ». C'est le feu éternel, vous mettez le mot que vous voulez. Enfin, d'un côté, il y a la vie avec Dieu. Et de l'autre, rien. Solitude, feu, et le feu qui est éternel. Autre point, c'est le fait que ce peuple est appelé des témoins. Mais je pense qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui des témoins entre nous pour se fortifier, s'édifier quand Dieu agit. Et puis autour de nous pour faire connaître qui est Dieu. Parce qu'effectivement, à notre époque, tentez l'expérience de parler de Dieu autour de vous. Alors si vous êtes dans une communauté chrétienne, tout le monde va vous entendre, vous comprendre. Parler de Dieu autour de vous, en dehors du monde du microcosme chrétien. Mais pourquoi s'intéresser à Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je vais très bien, merci. Non mais c'est pas dans ce sens qu'il faut voir. C'est qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? C'est pas ce qu'il a fait pour toi, c'est qu'est-ce que toi tu as fait pour lui. Dieu recherche des gens qui s'intéressent à lui. Et donc, force est de constater que ceux qui ne s'intéressent pas à lui, ben, il va respecter leur décision. Mais une décision qui sera lourde de conséquences. Voilà, donc pour conclure, je vous propose simplement vous-même de vous interroger sur vos attitudes. Je me propose moi de m'interroger sur mon attitude, mes attitudes. Vous êtes là ce matin parce que c'était dimanche matin, parce que c'était obligatoire, par habitude, par envie. Vous êtes là pour gagner votre salut, ou vous êtes là pour adorer. Voilà, donc la différence entre qu'est-ce qu'on fait par obligation, parce qu'on a envie de gagner quelque chose, ou qu'est-ce qu'on fait en tant que conséquence de l'amour de Dieu pour nous. Et si je devais résumer effectivement ces 66 chapitres, pour moi, ce serait d'avoir un témoignage crédible, à la fois pour Dieu, pour qu'on puisse l'honorer, et d'avoir un témoignage crédible pour les autres, de telle manière que les autres voient Dieu au travers de nous. Et je vais simplement reprendre ces versets du chapitre 43. Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Vous êtes témoins que je suis Dieu. Et j'ai envie de dire, Jésus-Christ aurait pu dire, c'est moi qui apporte le salut, c'est moi qui l'annonce et c'est moi qui le fais savoir. Voilà. Donc deux figures importantes, Ésaïe et Jésus-Christ. On va dire, honorez-le par votre témoignage. Et quand je dis honorer, c'est honorons, y compris moi. Voilà, donc... Je pourrais presque reprendre le premier chant. Je ne vois plus Claude. Si. J'ai bien aimé le premier chant que tu as choisi. Surtout pour les paroles. Donc si on peut prendre le temps de l'afficher, voire de le rechanter avec les musiciens. Le premier, je ne l'ai pas noté. Mais c'est un bon résumé de ce qui est... Apprends-nous à marcher par la foi et de faire attention à ceux qui nous entourent, à la fois dans l'assemblée et à la fois à l'extérieur.